France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Quentin Péchard, Sacha Mattei, Margot Le Ridon, Barthélémy Gaillard et Christine Anger, réalisé par Vivian Le Cuivre. À la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Comme chaque vendredi, une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec notre partenaire du Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Au sommaire de l'émission de ce jour, la crise politique en Corée. Le chef d'État est toujours calfeutré dans la résidence présidentielle, entouré de militaires qui l'ont défendu cette nuit face aux agents venus faire appliquer le mandat d'arrêt émis par un tribunal d'instance de Séoul. Les avocats de Yoon Sung-yeol contestent ce mandat d'arrêt délivré par un président du tribunal qui accuse le président d'avoir orchestré la déclaration de loi martiale du 3 décembre et d'avoir diligenté l'insurrection, ces militaires envoyés au Parlement pour tenter de le museler. Que dit cette crise de l'état de la démocratie sud-coréenne ? Nous en parlons avec nos invités, Valérie Gelaiseau, géographe et coréanologue, directrice d'études à l'EHS. EHESS et Justine Guichard, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité, spécialiste de la Corée contemporaine. Mais d'abord, comme chaque vendredi, place à notre retour de, en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. À Damas, en Syrie, le nouvel an était célébré dans la liesse collective, image impressionnante d'une joie partagée dans la musique et la fête, donnant l'impression d'une véritable union après la chute de Bachar al-Assad. C'est oublié néanmoins que des dizaines de milliers d'autres habitants de Syrie voient leur cauchemar au contraire se prolonger, ceux qui dans le nord du pays doivent fuir les milices soutenues par la Turquie, lesquelles milices profitent du vide laissé par la chute du régime bassiste. Bonjour Luc Alazo.
Bonjour Julie Gacon.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous avez travaillé à France Culture et vous êtes aujourd'hui correspondant au Kurdistan irakien pour RFI. À la chute de Bachar al-Assad, vous avez franchi la frontière entre l'Irak et la Syrie, vous avez sillonné le nord-est syrien avec la chercheuse et journaliste Iris Lambert. Et vous avez raconté ce que vous y avez vu dans l'Humanité, dans Ouest France et sur la radio-télévision suisse, la RTS. Alors, si vous le voulez bien, Luc Alazo, on va remonter la route que vous avez faite depuis la frontière irakienne, longer le nord de la Syrie, direction l'ouest, jusqu'à Kobané. Vous vous êtes d'abord arrêté à Qamishli. Le régime de Bachar al-Assad était tombé depuis quoi ? Deux, trois jours ?
Trois jours, oui.
Ouais, à ce moment-là, quelle était l'ambiance dans cette ville-là de la région autonome kurde ?
Eh ben, en fait, c'est assez impressionnant parce que Qamishli a beau être l'une des principales villes de la région autonome kurde, le régime maintenait une présence, un quartier au cœur de la ville avec une prison, avec certaines branches des services de renseignement, une antenne du parti basse. Et donc, quand on est arrivé à Qamishli, sur la place principale de la ville, la statue d'Hafez al-Assad venait d'être déboulonné aux premières heures du lundi 9 décembre. Et les gens continuaient à se rassembler sur la place pour prendre des photos, comme pour être certains qu'ils n'avaient pas rêvé. Le socle de la statue avait été placardé de portraits de combattants kurdes. Les affiches à l'effigie de Bachar al-Assad avaient été déchirées, piétinées en lambeaux. Mais voilà, les gens continuaient à se rassembler et à témoigner de l'émotion collective, du soulagement énorme de cette nouvelle qui les a surpris comme tout le monde. Il ne faut pas oublier que le régime bassiste a oppressé les Kurdes pendant les 50 ans de sa durée au pouvoir. Les Kurdes ont toujours été considérés comme des citoyens de seconde zone. Leur nationalité a souvent été déniée. Il y a eu des campagnes de remplacement de population par des populations arabes dans les zones kurdophones. Donc c'est vraiment le soulagement qui prévalait à trois jours de la chute du régime à Qamishli.
Donc Qamishli, une ville de la région autonome kurde, donc administrée par les forces démocratiques syriennes, les FDS, cette coalition qui s'est constituée à la faveur de la lutte contre l'État islamique, qui est dominée à Qamishli et dans le nord-est syrien par les Kurdes des unités de protection du peuple. Mais vous dites qu'à Qamishli, il y avait un quartier du régime syrien. Il y avait des militaires il y avait une certaine surveillance aussi dans cette ville-là.
Une caserne. Effectivement, comme je vous l'ai dit, des services de renseignement. En fait, la présence de ce quartier du régime était l'issue d'un deal avec les FDS qui, eux, maintenaient une présence dans les quartiers kurdes d'Alep. C'est un peu compliqué. Mais effectivement, le quartier, le Regime Square, comme on l'appelle, le quartier du régime, suscitait encore l'effroi des populations à Kamishli, même 3 jours après la chute du régime. Plusieurs personnes nous ont témoigné de leur crainte d'arpenter ces rues, de toutes les rumeurs et les souvenirs de personnes qui auraient pu être enlevées au moment de passer à proximité du quartier, notamment les jeunes qui craignaient d'être enrôlés de force pour le service militaire. Donc oui, c'était un quartier qui maintenait comme une sorte de deuil du régime au cœur de Kamishli.
Donc vous racontez 3 jours après la chute du régime de Bachar al-Assad, c'est cette statue d'Hafez al-Assad déboulonnée, ces photos de combattants turcs tombés dans la guerre contre les forces syriennes brandies partout dans les rues et affichées dans les rues, et des habitants qui tous essayent d'avoir des nouvelles de Damas, tout le monde est sur son téléphone. Ces habitants qui ont peur par ailleurs pour celles et ceux qui vivent à Kobané, à 325 km de là, 5 heures de route en direct de l'ouest, de la Turquie. Pourquoi d'emblée pour... Pardon.
Alors juste avant, je voudrais un truc qui m'a beaucoup marqué à Kamishli et qui raconte aussi cette volonté des Kurdes de Syrie de faire partie de la Syrie de demain, de revendiquer qu'ils sont Syriens avant d'être Kurdes. C'est tout le monde, même les enfants, l'effroi à la découverte des images de la prison de Sadnaya, des exhumations, des charniers du régime. Vraiment, c'était sur toutes les lèvres, alors que pourtant c'était dans les régions contrôlées par le régime.
Vous voulez dire qu'ils n'étaient pas concentrés sur le fait que va devenir notre région autonome kurde. Il y avait vraiment à ce moment-là une...
Un destin empathie, commun, en fait, c'est-à-dire une empathie. Et ensuite, effectivement, la Turquie et ses milices sur le terrain n'ont pas attendu la chute du régime pour commencer à s'attaquer aux enclaves kurdes à différents points du territoire et notamment à entamer des campagnes de bombardement autour de la ville de Kobané, une ville emblématique parce qu'elle avait été en première ligne de la lutte contre l'État islamique en 2014-2015. Et donc voilà, nous quand on arrive à Kamishli, les premiers échos de cette guerre plus à l'ouest commencent à arriver et les gens évidemment sont... C'est-à-dire que l'euphorie suscitée par la chute du régime est très vite remplacée par la crainte, l'angoisse de voir la Turquie, ses milices profiter du vide sécuritaire, du chaos. On est vraiment le 9 décembre, ils sont à peine arrivés à Damas, HTS, pour s'attaquer aux Kurdes. Une nouvelle
Alep
fois.
Alep est déjà tombé.
Une bonne semaine
et des milliers de personnes ont déjà fui Alep, fuyant ces milices pro-turques.
Et d'ailleurs, à Kamishli, on voit arriver des convois, des camionnettes avec des familles de réfugiés qui ont entassé à la va-vite tout ce qu'elles ont pu rassembler parce que effectivement, au moment où HTS entame son espèce de grande offensive sur Alep, Hama, Homs, en marge ou en périphérie de cette offensive, les milices pro-turques en ont profité pour s'attaquer aux zones contrôlées par les Kurdes et notamment au nord d'Alep, des zones où vivaient des dizaines de milliers de déplacés d'une précédente offensive turque à Afrin, une région frontalière de la Turquie.
Oui, les offensives turques ne datent pas d'hier, ne datent pas de cette offensive contre le régime de Bachar al-Assad. Peut-être pour rappel, Lucas Lazo, quel rôle ont joué ces milices pro-turques dans la chute d'Alep d'abord, mais surtout de Bachar al-Assad?
C'est difficile à dire. Les relations entre HTS et ces milices sont très ambivalentes. On peut vraiment dire que ces milices ne répondent qu'à la Turquie. Ce sont des groupes de mercenaires qui n'ont pas... Elles ont joué un rôle en première ligne dans certains combats à Alep, mais elles ont surtout poursuivi leur propre intérêt, à savoir celui de la Turquie, à savoir débarrasser la province d'Alep de la présence kurde des FDS. Et donc oui, ils se sont précipités sur les zones de peuplement kurde, ce qui a entraîné des flots de dizaines de milliers, 100, 150 000 déplacés qui ont cherché à fuir Alep pour rejoindre les territoires administrés
juste
par
pour,
les Kurdes.
Ouais, juste pour rappeler, parce qu'on a l'habitude d'employer ces sigles maintenant, mais HTS, c'est bien Hayat Tahrir al-Sham, donc le groupe islamiste qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie et qui est chargé, s'est chargé de reconstruire la Syrie de demain. Et on y consacrera d'ailleurs une très longue série dans Culture Monde la semaine prochaine. Donc ces réfugiés kurdes que vous rencontrez dans les villes où les milices pro-turques vers lesquelles ces milices pro-turques avancent, et ces réfugiés qui ont pour quelques semaines, espèrent-ils poser leur très modeste bagage, par exemple dans la ville de Raqqa, où vous êtes allé. On peut la situer, la décrire. Elle est sur les rives de l'Euphrate. Il y fait très très froid. En ce moment, vous parlez du stade de Raqqa et ses entrailles glaciales dans un reportage pour l'Humanité. Combien sont-ils aujourd'hui entassés dans ce stade?
Alors aujourd'hui, très peu. En fait, c'est-à-dire que quand ces dizaines de milliers de réfugiés quittent Alep, ils mettent plusieurs jours pour arriver jusqu'à Raqqa. Et dans le stade de Raqqa, qui est quand même un stade, il faut le rappeler, de sinistre mémoire, c'est là où l'État islamique en avait fait un centre de détention et de torture à l'époque où il administrait la ville de Raqqa. Donc le stade de Raqqa a servi de centre d'accueil très ponctuel, temporaire, pour trier, recenser les déplacés avant qu'ils soient répartis dans les écoles de la ville. Il y a 70 écoles qui ont été ouvertes à Raqqa pour accueillir ces réfugiés. Et nous, quand on arrive dans le stade de Raqqa, il reste une dizaine de familles épuisés par la route, qui n'ont plus le courage de poursuivre leur exode vers les écoles de Raqqa. Et effectivement, on rencontre ces familles dans les entrailles glaciales du stade, et notamment une femme, Zinab, qui témoigne.
Que vous avez rencontrée, que vous avez interrogée pour la RTS.
Les enfants n'arrêtent pas de pleurer. Ils disent qu'ils veulent quitter cet endroit. Ma fille, elle pleure tous les jours, et elle n'arrête pas de me demander. Quand est-ce que l'on pourra partir d'ici et rentrer chez nous, à Sherba? Nous voulions sauver nos vies. Nous avons entendu que l'armée nationale syrienne allait massacrer les femmes et les enfants. C'est pour ça que nous avons dû fuir. Nous avons marché pendant 3 jours. Il n'y avait pas d'essence. Nous ne pouvions pas nourrir les enfants. Il n'y avait pas de pain à donner aux garçons, pas de lait pour les nourrissons. Il faisait très froid. Il n'y avait pas de couverture, rien pour nous couvrir. Mon fils est mort sur la route. Il s'appelait Nour. Il avait 4 mois et demi. 4 mois et demi, je vous jure.
Elle s'appelle Zinab, elle a quitté l'enclave de Sherba au nord d'Alep avant que vous ne la rencontriez dans le stade de Raqqa. Luc Alazo, cette enclave de Sherba, tout comme celle de Tal Rifat, comment se sont-elles constituées? Parce que ce qu'on comprend bien aussi, c'est que ces réfugiés, c'est pas la première fois qu'ils fuient.
Non, c'est-à-dire qu'en 2018, la région d'Afrin, frontalière de la Turquie, peuplée majoritairement de Kurdes, est attaquée par ces milices. L'armée, la SNA, Syrian National Army, l'armée nationale syrienne, pro-turque, avec l'appui aérien de la Turquie. Donc en 2018, ces familles quittent Afrin pour Sherba Tal Rifat, au nord d'Alep, rebelote début décembre 2024. Elles fuient les mêmes milices pour rejoindre la région de Raqqa. Et donc le trajet, toutes les personnes qu'on a pu interviewer nous racontent un trajet, c'est 150 km à peine, Sherba et Raqqa. Mais c'est 3 jours dans le froid, souvent à pied, sous les menaces de ces miliciens pro-turcs, de nombreux nourrissons qui meurent de froid, comme le petit de Zinab. C'est beaucoup de témoignages de corps calcinés sur la route, non identifiables, mais il y a eu des exactions, il y a eu des violences ethniques au cours de cette fuite. C'est difficile de les recenser parce qu'il y avait absolument aucun journaliste, très peu d'activistes des droits de l'homme, et ça a vraiment été une fuite rocambolesque. Les gens ont à peine eu le temps de prendre l'essentiel avant de quitter leur maison, parfois leur tente, parce que certains vivaient encore dans des camps de réfugiés. Donc voilà, c'était une fuite pour finir à Raqqa, soit dans le stade, soit dans les écoles.
À Raqqa, quand vous y arrivez, les responsables du Croissant Rouge kurde sont submergés. C'est très différent de la ville de Kobané, où vous vous rendez un tout petit peu plus tard. Là, vous n'y voyez aucune ONG?
Oui, en fait, c'était assez frappant. À un moment, on est dans le stade de Raqqa et arrive une famille de réfugiés qui revient à Raqqa. Il rentre de Kobané et la femme sort du taxi épuisée et elle dit « Mais j'étais à Kobané, c'était l'enfer ». Du coup, nous, on part pour Kobané où en fait, beaucoup de familles n'ont
plus
pas...
Au nord.
Plus au nord, plus près à la frontière turque. Et en fait, les familles arrivent à Raqqa, mais les conditions étaient déjà tellement précaires à Raqqa. Il y a plus de fuel pour faire marcher les générateurs, il n'y a pas d'approvisionnement de nourriture, qu'elles décident de partir plus au nord pour trouver refuge ailleurs. Et à Kobané, il n'y a rien. Et il n'y a rien parce que la ville est déjà quasiment assiégée par les milices pro-turques. Donc une centaine de familles ont établi une sorte de camp précaire, spontané, dans une concession automobile abandonnée. Toutes nous ont raconté qu'elles pensaient être accueillies à Kobané. À Kobané, une ville emblématique, hein, des centres de pouvoir des FDS. Et en fait, rien, pas une ONG. L'hôpital a vaguement essayé d'installer un centre de soins dans cette concession automobile abandonnée. Mais ils ont dû le fermer très vite parce que la ligne de front est à 20 km. Du coup, il a fallu envoyer les derniers personnels soignants.
Même les personnels de l'hôpital est parti sur le front.
Les personnels soignants disponibles sont partis sur le front. L'hôpital de Kobané tourne encore. Il est déjà submergé par des blessés, victimes civiles des bombardements turcs. Les bombardements de la Turquie qui s'attaquent aux infrastructures civiles énergétiques font qu'il n'y a plus d'électricité au nord-est syrien.
Depuis longtemps, en fait. Enfin, ces bombardements,
c'est assez régulier. Mais en ce moment, tout particulièrement, notamment à cause des combats qui ont lieu sur un barrage hydroélectrique sur l'Euphrate, qui ont du coup limité les capacités électriques. Et l'hôpital de Kobané tourne avec 2 générateurs. Et les médecins sont complètement démunis. Ils sont conscients qu'il y a des réfugiés à 3 kilomètres, mais ils ne peuvent rien faire pour eux.
C'est la 3e fois que je dois tout abandonner et fuir. Nous avons dû quitter Alep pour Afrin, à cause de la guerre. Puis quitter Afrin pour Sherba, à cause des persécutions de l'armée nationale syrienne. Et là, nous venons de fuir Sherba et les attaques de ce même groupe armé. À chaque fois, j'ai pu sauver ma peau au dernier instant. J'étais enceinte au cours de chacune de ces fuites. J'ai l'impression d'avoir soufflé ma dernière respiration. Vous savez, mon état psychologique est en dessous de zéro. Aujourd'hui, je souffre d'anxiété, je suis malade.
Amina qui raconte bien, qui vous raconte, Luc Alazo, cette fuite perpétuelle depuis 2018. Ici, à Kobané, qui s'est embattue, vous le rappeliez, en 2014 contre l'État islamique. On dit aujourd'hui, Luc Alazo, que les États-Unis seraient en train d'y installer une base militaire. Quelles informations avez-vous à ce sujet? Les États-Unis, ils étaient à Kobané encore il y a quoi, 5 ans?
En 2019. Ils ont quitté Kobané en 2019. En fait, les Américains sont présents au nord-est syrien dans le cadre de la grande coalition internationale contre l'État islamique. Il reste à peu près 900 soldats américains dans la région. Une présence que les Kurdes aimeraient voir comme une garantie face aux agissements de la Turquie. Des cessez-le-feu sont négociés en ce moment, mais pas respectés. Et du coup, vraisemblablement, les Américains seraient en train de construire une base au cœur de Kobané. Il y a eu des camions, des dizaines de camions qui sont venus installer des blocs de béton là pour faciliter la construction de cette base. Ce qui, on l'espère, ou les Kurdes en tout cas l'espèrent, permettrait d'empêcher une offensive de grande ampleur de la Turquie et ses milices sur Kobané.
Alors, Luc Alazo, vous consacrez aussi dans l'Humanité un reportage aux disparus de ces déplacements massifs. Depuis le 1er décembre, on estime, c'est un comité qui s'est constitué au sein du camp de réfugiés en périphérie de la ville de Tabqa. On estime, c'est ça, Tarba?
Tabqa.
Tabqa, voilà. On estime à plus de 3000 personnes les disparus de ces déplacements massifs. Et vous racontez un haut-parleur qui égrène des noms dans ce camp. Les noms de qui? Des gens qui ont disparu? C'est pour les. C'est une sorte d'hommage ou c'est pour vraiment les retrouver? On les cherche? Qui sont-ils?
C'est-à-dire qu'à Tabqa, c'est vraiment un camp de réfugiés qui a été construit spontanément avec des tentes et les gens affluent. C'est difficile d'établir un listing en fait de qui arrive. Donc, à échéance régulière, les haut-parleurs du camp égrènent les noms des personnes portées disparues dans l'espoir qu'elles aient pu arriver entre-temps et les rassembler et qu'elles puissent se rassembler avec leur famille. Effectivement, au cours de cette fuite de 3 jours que je vous ai décrite, plus de 3000 personnes sont portées disparues. De nombreux témoignages recensent des enlèvements forcés, notamment aux différents checkpoints, notamment des enfants, probablement, selon les responsables des droits de l'homme locaux, pour les enrôler de force dans les milices pro-turques.
Donc ce n'est pas seulement des combattants présumés ou avérés des forces démocratiques syriennes, les FDS, qui seraient tombés aux mains de l'ennemi, donc ces milices pro-turques.
Il y a des combattants, des FDS, qui ont été arrêtés par les milices pro-turques, mais pas seulement. Il y a des enfants, j'ai rencontré des mamans dont les enfants de 14 ans ont disparu au cours de la fuite. Certaines familles reçoivent des photos ou découvrent sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de ces milices pro-turques, des portraits de leurs proches réclamant des rançons. Et ce qui est sûr aussi, et ce qui est assez triste, c'est que beaucoup de ces familles qui ont quitté Alep, après avoir quitté Afrin en 2018, sont rentrées à Afrin. C'est-à-dire que, faute d'opportunité, elles retournent finalement dans la gueule du loup. Et au moment d'entrer à Afrin, beaucoup d'entre elles ont été arrêtées par les milices pro-turques au moment de passer les checkpoints. C'est très très compliqué de savoir ce qui se passe à Afrin, il n'y a aucun accès pour la presse. C'est une zone complètement fermée et contrôlée par les milices pro-turques.
Même ce militant des droits de l'homme qui sillonne le camp, qui va parler à tout le monde pour savoir qui a disparu dans votre famille, quelles informations peut-on récolter, il a beaucoup de mal à vous dire précisément ce qui est en train de se passer. Peut-être pour conclure, Luc Alazo, quelle place aujourd'hui pourrait prendre les responsables kurdes du Rojava dans la Syrie de demain? Vous avez commencé à nous dire tout à l'heure ce sentiment d'unité qu'il y avait à la chute de Bachar al-Assad, ces Kurdes que vous avez rencontrés qui étaient tous le cœur tourné aussi vers Damas et ce qui était en train de se passer, les images terribles de ces prisons. On sait que des responsables kurdes ont pris contact avec le groupe islamiste Ayat Tahrir al-Sham, que des rencontres se sont passées récemment.
Il y a eu une réunion il y a 2 jours dans une base aérienne au nord-est de Damas. entre des responsables des HTS et des FDS. Il y a eu 3 points qui ont été discutés. Autant de sujets de disputes. Ouais. La première, c'est l'intégration des FDS à la future armée syrienne. HTS est d'accord, mais pour que ce soit une intégration individuelle et que soient fondées les FDS sur l'intégralité du territoire, quand les Kurdes voudraient au contraire maintenir des bataillons à Kamishli, à Sakeh, Kobané. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui va advenir de l'autonomie de la région kurde. Pour l'instant, HTS, Joulani, expriment qu'ils vont mettre en avant la langue kurde, permettre que les programmes scolaires soient en kurde, mais les FDS réclament le maintien d'une autonomie, que ce soit sous la forme d'un État fédéral, d'un État décentralisé, que sais-je, mais ils veulent maintenir cette autonomie. Et le troisième point, c'est les ressources des hydrocarbures, parce que c'est sur les territoires contrôlés par les Kurdes qu'on trouve les puits de pétrole et les centrales gazières. Et donc, il y a une question de la répartition du budget et des ressources de ces ressources hydrocarbures qui va être un gros enjeu entre les FDS et HTS.
Merci beaucoup, Lucas Lazo, d'être passé par Culture Monde. Je rappelle que vous êtes correspondant de RFI au Kurdistan irakien, de retour du nord-est de la Syrie. On peut vous lire dans l'Humanité et Ouest France et vous entendre sur RFI et la radio-télévision suisse, la RTS, ainsi que Iris Lambert, avec qui vous sillonnez la Syrie, qui écrit dans Libération. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Julie Gacon. If I pose and I thread, if I pull on the thread, will you try? If I open the tear with my best stare, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore your calls, will you believe? If I choke out the sun, if I blister the hum, will you breathe? Am I almost there? Stare, will you kneel? I am baby's breath, I dance with death, will you kneel? I'm sorry for the things that I see, I dance till my feet bleed. I'm never gonna die. Ooh, take the poses instead. And the feds, I'm gonna fly. Baby, 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 baby,
Roy du groupe Idols, c'est une chanson qui date d'il y a quelques mois. On quitte la Syrie pour notre table ronde d'actualité. La crise politique en Corée est-elle un soubresaut, un incident sur la route de la démocratie sud-coréenne ou la révélatrice d'un dysfonctionnement plus profond ?
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Toute la semaine dans Culture Monde, nous avons demandé aux écrivains leur part de vérité sur le monde. Nous aurions pu invoquer pour cette table ronde sur la Corée du Sud celle qui a obtenu cette année le prix Nobel de littérature, Han Kang, dont les livres racontent surtout l'histoire douloureuse et traumatique de son pays, les dictatures qui se succèdent jusqu'à la fin des années 80, les pas déterminés et cadencés des bottes militaires de plusieurs milliers de soldats qui foulent le bitume de Séoul, celui des chars qui donnait l'impression, écrit-elle, qu'ils allaient fendre la chaussée et détruire les murs et cette fumée noire qui jaillit de manière intermittente des tas de corps d'opposants brûlés par la junte. La Corée du Sud a, depuis 35 ans, construit sa propre démocratie avec des soubresauts, comme peut-être l'épisode politique en cours. Un président qui décrète la loi martiale le 3 décembre, des députés qui se calfeutrent au Parlement pour en voter la levée immédiate et aujourd'hui, un chef d'État visé par un mandat d'arrêt, retranché dans le palais présidentiel, défendu par des militaires. Cette nuit à Séoul, partisans et opposants à Yoon Sung-kyol se faisaient face.
Nous sommes ici pour exprimer notre souhait que le président accepte rapidement son arrestation, qu'il soit placé en détention et qu'il quitte le pouvoir dès que possible, afin de mettre terme à l'agitation politique actuelle.
Nous sommes rassemblés ici pour protéger notre président. L'autre parti essaie de l'arrêter, ce qui est vraiment illégal. Alors ici, nous voulons montrer notre pouvoir de citoyen.
Des témoignages recueillis cette nuit par France 24. Je salue nos invités. Bonjour Valérie Gelézeau.
Bonjour, Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe et coréanologue, directrice d'études à l'EHESS. Votre dernier ouvrage concerne la Corée du Nord, « Faire du terrain en Corée du Nord, écrire autrement les sciences sociales », paru aux éditions Atelier des Cahiers. Bonjour Justine Guichard.
Bonjour.
Bienvenue à vous également. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris Cité, politiste et spécialiste de la Corée contemporaine. Alors, comme chaque vendredi, on commence avec votre éditorial, Marc Sémo.
Merci Julie. Alors, nul n'aurait imaginé la démocratie coréenne, aussi fragile, la société coréenne à ce point polarisée. Alors certes, c'est une démocratie jeune, instaurée à la fin des années 80, sous la pression de vastes manifestations syndicales et étudiantes qui ont mis fin à toute une série de dictatures militaires. Mais elle semblait bien consolidée dans un pays qui s'est affirmé comme une puissance économique et stratégique, forte d'un soft power, dopée aussi bien par les succès de la K-pop, que de son cinéma, mais aussi par ses succès dans l'industrie d'armement. Alors, il y a maintenant deux présidents destitués coup sur coup, dont le très populiste et ultra-conservateur Yoon Suk-yeol, qui est barricadé, comme tu le disais, dans sa résidence sous la protection de la garde présidentielle. Et ce chaos fait dévisser aussi bien la devise sud-coréenne, qui est à son plus bas niveau face au dollar depuis 16 ans, que la bourse de Séoul. Alors cette crise avait été créée par la tentative de Yoon Suk-yeol le 3 décembre d'instaurer la loi martiale, mais cette crise arrive de surcroît au pire moment, alors que montent les tensions géopolitiques dans la péninsule coréenne, 72 ans après la fin de la guerre de Corée, qui s'était achevée sur un armistice, mais pas sur une paix. Le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, se fait toujours plus agressif, fort de son petit arsenal nucléaire. Il a resserré les liens avec Poutine, au nom, je cite, d'une amitié fougueuse, et les deux pays ont signé un accord de défense. Le régime nord-coréen livre des drones et des obus à l'armée russe, et plus de 10 000 soldats nord-coréens ont été envoyés à combattre les Ukrainiens à Koursk. En échange, la Russie aide la Corée du Nord a développé ses capacités balistiques, ce qui est inquiétant, et peut-être ses armes atomiques. Alors, ce crash test de la démocratie sud-coréenne a donc des implications qui vont bien au-delà de Séoul, très fidèle allié des États-Unis, avec le risque, toujours plus réel, d'une déstabilisation de tout l'Extrême-Orient à moins de 3 semaines de l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Merci Marc Sémo. Alors, pour rester peut-être d'abord sur cet imbroglio politique sud-coréen, et strictement sud-coréen, et j'insiste Justine Guichard pour dire imbroglio parce que je trouve que c'est très compliqué à suivre et qu'avec vous on va y voir peut-être plus clair et on va reprendre les choses un peu dans l'ordre avant de remonter à la racine de cette démocratie sud-coréenne encore récente, comme le rappelait Marc Sémo, puisque cette nuit une équipe du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités a essayé d'arrêter ce président Yoon Suk-yeol dans sa résidence présidentielle. Rappelez-nous qui a lancé ce mandat d'arrêt et surtout sur quel motif. Pourquoi le président sud-coréen n'est pas en l'occurrence couvert par l'immunité présidentielle?
Oui, encore merci de votre invitation. Donc, le mandat d'arrêt a été émis par un tribunal de Séoul dans le cadre donc de l'enquête pour rébellion qui vise Yoon Suk-yeol. Et il se trouve que la rébellion est l'un des deux seuls crimes avec la trahison, pour lequel l'immunité présidentielle est levée. Donc c'est voilà, l'un des deux seuls crimes pour lequel il est possible de poursuivre pénalement un président. Et donc du fait de sa tentative de coup d'État, ou en tout cas du fait de sa déclaration de la loi martiale dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024, Yoon Suk-yeol est depuis voilà, doublement en fait visé par la justice, et c'est quelque chose d'inédit. C'est le premier président qui soit en fait à la fois visé par la justice pénale et en même temps par la justice constitutionnelle. Tout Donc il y a ces deux procédures en cours, parallèlement.
Et le mandat d'arrêt est valable 6 jours. Il a été mis le 31 décembre, donc il reste 2-3 jours pour ces agents du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités pour arrêter le président. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce tour de force et cette passe d'armes cette nuit même au palais présidentiel. D'ailleurs, quelle unité de l'armée? On lit, Valérie Gelaiseau, on lit des militaires protègent aujourd'hui le président contre cette arrestation. Quelle unité de l'armée s'oppose physiquement à cette arrestation?
Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre petit extrait que vous avez donné au début de l'émission, c'est qu'en fait, on entendait des personnes, des citoyens s'exprimer. Et la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle l'arrestation de Youn n'a pas été possible, c'est que la police qui était venue arrêter s'est trouvée effectivement empêchée par l'armée, le corps d'armée qui protège le président, mais aussi et surtout par des citoyens, des civils. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de... Ils ont évité le coup de force et les violences. Et alors moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'assister à ça. On assiste vraiment à une mutation, à mon avis, d'une certaine fonctionnement de l'État qui évolue. La violence d'État, le militarisme et la violence policière, ce n'est pas ce qu'on voyait dans les années de la dictature militaire. Et même quand on revient au coup d'État, à la tentative d'instaurer la loi martiale du 3 de la nuit, du 3 décembre. Pourquoi les parlementaires ont-ils pu pénétrer dans le Parlement? Pourquoi ont-ils réussi à voter contre cette loi martiale? Parce qu'en fait, l'armée avait été envoyée, mais l'armée n'a pas vraiment coopéré. On a bien vu que ça n'était pas dans les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu la violence n'a pas été actionnée. Et je trouve que c'est une mutation qui me paraît, en tout cas c'est vraiment intéressant de le voir.
Donc les militaires auraient laissé les députés, et en l'occurrence de l'opposition, entrer dans le Parlement pour voter l'abrogation de cette loi martiale.
Il ne serait pas passé sinon.
Ouais. Marc Sémo.
Mais est-ce que Yoon Suk-yeol est...
Le président coréen.
Le président coréen, donc barricadé là, dans l'occurrence. Est-ce qu'il est totalement isolé ou il y a encore une partie de l'opinion qui le soutient?
Alors,
le fait qu'il y ait justement des civils autour, etc., c'est qu'il a encore des partisans.
Il a quelques partisans qui sont ultra minoritaires. Hein. Là, j'écoutais ou je regardais là sur dans la presse coréenne qui estime à 75%, mais peut-être que Justine pourra confirmer ou développer là-dessus. Mais il est très isolé. C'est une action désespérée qu'il a faite. Et 75%, je crois, de la population a exprimé officiellement le souhait que le président soit destitué et que donc que la Cour constitutionnelle confirme motion de destitution. Il n'est pas encore destitué. Il y a une motion de destitution.
Il y a un risque parce qu'il n'y a que 6 juges.
C'est ça. Alors voilà, on va aborder cette question-là parce que c'est vrai que Yoon Suk-yeol a été destitué le 14 décembre par l'Assemblée nationale, mais la Cour constitutionnelle doit confirmer ou invalider cette destitution. Mais comme un problème ne vient jamais seul, manifestement, sur les 9 juges que compte habituellement la Cour, 3 avaient pris leur retraite en même temps, en octobre, et n'avaient pas été remplacés. Peut-être un mot là-dessus, Justine Guichard. Comment expliquer? On vient de le dire, ils ont pris leur retraite, ces juges-là, mais là, il y a déjà un petit problème avec la démocratie sud-coréenne. Une cour constitutionnelle qui est vacante pendant 3 mois, et là, face à une crise politique, qui ne peut absolument rien faire.
Oui, alors cela tient au fait, vous le disiez, donc la Cour constitutionnelle, elle est composée de 9 juges qui sont nommés pour un mandat de 6 ans. Donc il arrive en effet que les mandats expirent. Et donc 3 des mandats avaient expiré en octobre 2024, ce qui fait que voilà qu'il ne restait que 6 juges. Or, depuis, 2 ont été nommés le 31 décembre. Par le nouveau président par intérim. Donc, à l'heure actuelle, la Cour constitutionnelle, elle compte 8 juges.
Sur 9. Il en faut un 9e.
Non, en fait, le quorum est de 7 juges pour se prononcer.
D'accord.
Et même lorsque la Cour constitutionnelle ne comptait que 6 juges, elle avait elle-même considéré qu'elle pouvait statuer. Pas seulement sur la destitution de Yoon Suk-yeol, mais sur d'autres affaires. Donc, en fait, c'est pas inédit qu'il n'y ait que 8 juges sur 9, puisque c'était aussi le cas au moment où a été arbitrée la destitution de Park Geun-hye.
De Park Geun-hye, c'était en 2017, une présidente qui a en effet été destituée. La Cour suprême a confirmé ce vote de destitution du Parlement, mais ça lui est déjà arrivé à l'inverse d'invalider un vote de destitution, c'était le cas en 2004. Sur quel motif avait-elle dit « non, ce vote parlementaire de destitution n'est pas valable, n'est pas valide »
Oui, voilà, vous avez raison. On a les deux précédents, donc une motion de destitution validée par la Cour constitutionnelle et l'une rejetée. Alors, dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que la Cour constitutionnelle a reconnu que le président avait commis des violations de la Constitution. Ça a été le cas en 2004. La Cour constitutionnelle a considéré que Yoon Suk-yeol avait commis des violations de la Constitution, mais que celles-ci n'étaient pas suffisamment graves pour le révoquer de ses fonctions. En l'occurrence, c'était une violation du devoir de neutralité du président en période électorale. Alors que pour que Park Geun-hye, voilà, la violation de la Constitution a été jugée suffisamment grave pour la démettre de ses fonctions.
Donc en 2017. Donc il y a dans cet épisode actuel des choses qui sont totalement inédites. Vous le disiez tout à l'heure, le mandat d'arrêt émis contre un président en exercice, par exemple en Corée du Sud, c'est inédit. C'est aussi la première fois dans l'histoire de la 6e République sud-coréenne, donc depuis 87, qu'un président décrète la loi martiale. Peut-être Valérie Gelaiseau.
Effectivement, la loi martiale n'a pas été utilisée depuis 1900. La dernière occurrence, c'était entre de 1979 à 1981. Ça avait suivi l'assassinat du général Park, qui était donc un fait d'urgence nationale. La loi martiale n'est pas censée être utilisée, est censée être utilisée en cas de péril national, donc d'attaque nord-coréenne, de catastrophe mettant en danger la sécurité civile. Donc là, ça n'a pas du tout été le cas, et la loi martiale n'avait pas effectivement été utilisée depuis 1981. N'était pas en action.
Cette prérogative de déclarer la loi martiale, elle est conférée, Justine Guichard, vous l'expliquez dans vos travaux, au chef d'État en temps de guerre, d'incident militaire ou d'urgence nationale. Cette fois, le président avait invoqué la dictature législative que l'opposition aurait exercée en déposant des amendements à tout va contre le projet de budget du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette façon de parler de l'opposition? Qu'est-ce que révèle cette utilisation des termes, la dictature législative?
Oui, alors c'est à la fois pour alors la dictature législative, elle renvoie à la fois à l'obstruction du projet de budget et, si vous voulez, aux nombreuses motions de destitution qui ont été déposées par l'opposition démocrate qui contrôle le Parlement depuis 2023. Parce qu'en fait, la motion de destitution contre Yoon Suk-yeol, c'est pas la première motion de destitution déposée par l'opposition. Et donc il y a, on est dans une situation depuis l'élection de Yoon Suk-yeol de cohabitation entre un président conservateur et un parlement à majorité démocrate qui est en fait une situation de confrontation extrême. Et dans cette situation de confrontation extrême, le recours à la loi martiale, voilà, témoigne à mon avis du fait que Yoon Suk-yeol ne considère pas ses opposants, les membres de l'opposition, comme des adversaires légitimes, mais comme des ennemis illégaux. Et ça, c'est une pratique, une logique, voilà, qui n'est pas nouvelle en Corée du Sud, mais qui, avec Yoon Suk-yeol, a vraiment atteint un paroxysme.
Donc aujourd'hui, ce qu'on sait un petit peu plus, avec un petit peu de recul sur cette déclaration de loi martiale du président sud-coréen le 3 décembre dernier, cette déclaration, l'enquête qui est en cours semble révéler pour l'instant que le président sud-coréen a orchestré la déclaration de loi martiale, que ça faisait déjà plusieurs mois qu'il avait en tête cet acte-là, comme si c'était quelque chose qui l'ourdissait depuis longtemps déjà. Il aurait donné par exemple des instructions au ministre de la Défense, à l'ex-chef du contre-espionnage aussi, pour forcer la porte de l'Assemblée nationale, fût-ce à coups de hache ou même de balles. Ce sont les premiers rapports que l'on a de l'enquête qui est menée par la justice coréenne aujourd'hui. Valérie Gelaiseau, vous disiez tout à l'heure quelque chose de nouveau est en train d'advenir. Là, ce qu'on est, même si on dit très souvent que la politique sud-coréenne est assez violente, qu'il n'y a pas de culture du compromis en Corée, quelle ligne rouge on serait en train de franchir?
Alors, moi, ce que je trouve très, très intéressant, c'est, je pense qu'il faut bien comprendre, et c'était évoqué là à l'instant par Justine Guichard, ce qui est à la racine de cette situation. En fait, c'est la division nationale et l'armistice, la situation d'armistice. Il faut bien se rappeler, comme l'a dit Marc au début de l'émission, la guerre de Corée n'est pas résolue. Et ce qui, au fond, explique beaucoup de choses.
Vous voulez dire la guerre de Corée de 53. Il y a un armistice, mais pas de traité de paix.
Absolument. Et ça, vraiment, il faut vraiment le... C'est très important à comprendre. Ça fait partie de l'ADN de la République de Corée. C'est dans la nature de l'État. Et l'existence même de la loi martiale et la possibilité pour Yoon d'y recourir en arguant de l'impératif de, et je le cite, la protection de la libre République de Corée. Donc ça, ça fait partie. Et tout ce qu'il a utilisé en annonçant sa loi martiale, l'éradication des ignobles forces anti-étatiques pro-Nord, la protection contre les forces communistes, etc., etc. Tout ça, c'est de la phraséologie qui est celle de l'après-guerre de Corée, de toutes les années de dictature militaire qui ont été marquées par l'anticommunisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette loi d'urgence, cette situation d'armistice implique une loi d'urgence nationale qui existe, qui est un paradoxe aujourd'hui dans un État en principe démocratique, comme la Corée. Et cette loi liée à la situation d'armistice, qui est permanente, permet justement, s'il y a un soupçon de collusion avec la Corée du Nord, s'il y a un risque d'infiltration, de mettre en place des exceptions aux procédures démocratiques. Et donc, par exemple, de mener des perquisitions, etc., etc. Donc, au fond, de pratiquer une violence d'État dans le cours normal des choses. Donc ça, c'est tout à fait important. C'est le socle. Or, ce qu'on voit là, c'est que ça ne fonctionne pas. Et on est dans une crise qui, à mon sens... cette crise est le signe peut-être que la maturité de la démocratie sud-coréenne est telle que la situation d'armistice doit être résolue enfin et que la démocratie sud-coréenne est assez mûre pour que ça arrive. Alors bon, et ce qui est intéressant, je vais terminer par là parce que je vois que je suis un peu longue.
Non, pas du tout, on vous écoute.
La question du traité de paix n'est très peu traitée de front par l'ensemble des politiques. Elle est souvent évitée, aussi bien par les conservateurs que les démocrates. C'est un sujet, un non-sujet.
Pourquoi ? Voilà.
Parce que c'est justement trop clivant politique et c'est quelque chose qui n'est pas possible pour l'instant. C'est vraiment une question très difficile à traiter.
70 ans plus tard.
Voilà, 70 ans plus tard, avec l'existence de la Corée du Nord. Donc c'est des questions géopolitiques. Là,
et ces menaces nucléaires.
Absolument. Donc on peut craindre pour la démocratie sud-coréenne si on est pessimiste. Mais si on est optimiste, on peut penser que c'est peut-être une forme de crise d'adolescente très violente.
Et avec des très forts contre-pouvoirs.
Voilà, là, mais bon, ceux qui ont des enfants savent que parfois c'est violent, une crise.
Mais justement, pour être pessimiste, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui le risque que le régime de Pyongyang, qui a énormément durci son attitude vis-à-vis du Sud, qui parle ouvertement de réunification par la force, qui définit le Sud comme une nation hostile, profite de la crise actuelle?
Et on va, oui, Valérie Gelaiseau, et puis on fera réagir Justine Guichard.
Alors,
également.
Ces déclarations, oui, datent il y a quelques mois. Donc il y a une transformation dans le discours nord-coréen. Ce que je constate là, c'est qu'à là devant la crise, Kim Jong-un a condamné. Officiellement, il a condamné l'action de Yoon Suk-yeol, mais pour l'instant, il n'a pas fait tellement de déclarations. Donc, je ne suis pas certaine, en fait, que pour la Corée du Nord, l'objectif, en fait, je ne pense pas qu'il y aurait une action militaire à craindre dans l'immédiat, en fait, que ce serait qu'il profiterait de la situation politique en Corée du Sud.
C'est l'occasion de regarder la caricature qui nous est envoyée cette semaine, puisque comme chaque vendredi, on a un partenariat avec l'association dessinateur directeur de presse Cartooning for Peace, notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes. Et cette semaine, c'est un dessin signé Hector, caricaturiste français. On y voit Kim Jong-un, le leader nord-coréen, se moquer. Alors, il est vraiment hilar. Il se moque du président sud-coréen. Il le regarde comme un petit enfant. Le président sud-coréen a l'air d'ailleurs de bouder. Il tient un carton avec des petits soldats et des chars. Et Kim Jong-un lui dit « Hey Yoon, tu ranges déjà tes petits soldats ?» Bon, si tu cherches l'asile politique, tu sais où me trouver. Ha, 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 ha. Peut-être, Justine Guichard, une réaction à la fois cette caricature et ce que disait Valérie Gelaiseau sur ce sujet de la Corée du Nord qui est toujours quelque part quand on parle de la politique nationale sud-coréenne.
Oui, c'est une caricature qui est intéressante parce qu'elle, voilà, elle souligne que c'est une crise dont les répercussions ne sont pas que domestiques. Et en effet, elle peut être préoccupante au regard du contexte international qui est double en fait, qui à la fois dans le cadre du renouveau de l'alliance entre la Corée du Nord et la Russie d'un côté, et puis le retour d'une deuxième présidence Trump. Peut-être pour compléter ce que disait Valérie Gelaiseau sur voilà la loi de sécurité nationale et finalement voilà la place de l'ennemi hein, dans la politique sud-coréenne. La loi de sécurité nationale, elle date, enfin, et la rhétorique de l'ennemi, elle date pas que de 1953, mais de 1948. Donc, quelque part, elle a été consubstantielle à la naissance de l'État sud-coréen lui-même, à la création de l'État sud-coréen lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très difficile à démêler, puisque, voilà, la sécurité nationale et la protection de l'État sud-coréen et de son identité sont souvent en jeu.
La liaison n'est pas très très bonne, je vous prie de m'excuser, je m'adresse aux auditeurs, mais Justine Guichard, on va essayer de peut-être faire en sorte que la liaison soit un petit peu meilleure. Valérie Gelaiseau, cette loi sur la sécurité nationale qui a été très largement utilisée sous les régimes autoritaires et les dictatures jusqu'en 87, vous disiez que c'est toujours aujourd'hui un outil utilisé par les présidents, mais dans quel cadre et pour qui ? Qui s'agit-il de réprimer ?
C'est pas un outil, c'est une loi, c'est un contexte, comme vient de le dire Justine Guichard, ça date de la création de l'État. Et moi, tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur en parlant. J'ai parlé de loi d'urgence nationale, je parlais bien de la loi de sécurité nationale, qui est une loi qui fait partie depuis 1948, en quelque sorte de l'ADN de l'État sud-coréen, et qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en place des exceptions aux procédures démocratiques en cas de soupçon de collusion avec la Corée du Nord, notamment en cas de soupçon d'atteinte à la sécurité nationale, l'atteinte à la sécurité nationale venant essentiellement, le risque venant essentiellement de la Corée du Nord.
Mais c'est quand même utilisé, dit-on, contre les syndicats, par exemple, oui, voilà, largement depuis 30 ans.
Ça peut, voilà, tout à fait.
Contre qui, ouais. Les journalistes, par exemple, il y a eu les beaucoup de procès de journalistes.
Des procès de journalistes, le muselage de la presse, l'interdiction de partis politiques, ce genre de choses, voilà. Parfois même contre des sociétés. Enfin, ça peut aussi servir de manière, à l'époque de pacte Jong-i, c'était utilisé pour mettre au pas les entreprises qui ne suivaient pas le plan quinquennal, par exemple. Donc, voilà.
Il y a toujours l'économie quelque part aussi, ouais. Quand on parle de la Corée du Sud, c'est quelque chose que vous vouliez peut-être développer.
Sur l'économie.
Oui, il me semblait que vous vouliez nous expliquer qu'en ce moment même, il y a des enjeux aussi économiques qui se jouent, mais j'avais peut-être mal compris. Quand vous êtes venu tout à l'heure en studio, alors Yoon Suk-yeol, disiez-vous, invoque la Corée du Nord comme aujourd'hui, c'est la toile de fond de ces accusations portées contre l'opposition pour obstruction à son projet de budget. Mais où est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut essayer d'aller chercher quelque part un brin de vérité, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui il est d'usage tout le temps dans les partis politiques en Corée du Sud que d'accuser le parti adverse d'être en collusion avec la Corée du Nord ? Qui y croit en Corée du Sud ?
C'est bien pour ça qu'il y a une enquête, enfin qu'il est considéré comme en rébellion, etc. Il faut les facteurs d'éclairage de cette crise, il faut les voir aussi. Enfin, je pense à court terme, à moyen terme et à long terme. On a abordé la question du long terme avec cette situation de la division et de l'armistice. Mais à court terme, il faut revenir sur l'administration de Yoon Suk-yeol. D'abord, le clivage extrême politique du corps électoral, il a été, il faut rappeler, élu à une très courte majorité devant son rival. Il est, comme l'a dit tout à l'heure Justine Guichard, en cohabitation avec une assemblée majoritairement au parti d'opposition, qui a d'ailleurs la majorité, voilà, la majorité absolue, hein, même sans compter le soutien des partis alliés. Et puis, pour en arriver là, il y a aussi des erreurs de son mandat, c'est-à-dire son gouvernement, des dérives autoritaires, de très importants scandales qui entourent la première dame, qu'il a essayé d'étouffer à plusieurs reprises, voire il a bloqué les investigations en exerçant son droit de veto.
On l'accuse de corruption.
Voilà, corruption, fraude électorale, scandale financier, manipulation
poussière,
etc.
Il a beaucoup de pouvoir, le président, ou c'est un système...
C'est un système présidentiel, donc oui, absolument, oui.
Il y a eu plein de scandales, le déménagement du bureau présidentiel vers le bâtiment du ministère de la Défense, ça n'a pas du tout plu non plus à l'opposition.
Absolument, c'est un président qui est très impopulaire et qui a accumulé, si vous voulez, les erreurs de politique intérieure, hein, de politique interne, et qui se trouve extrêmement isolé, et quelque part, cette décision est aussi le signe d'un coup de sang aussi, je pense, d'une action un peu désespérée. Vous avez dit tout à l'heure que c'était très préparé, qu'il avait prévu son armée, etc. Alors, effectivement, il aurait évoqué cette volonté d'actionner la loi martiale en mars, je crois. Donc, ça fait un moment. Mais beaucoup de commentateurs en Corée du Sud soulignent au contraire l'impréparation. Le fait que, avant de déclarer cette loi martiale, cet état d'urgence, qu'il ne n'avait pas prévu, par exemple, les États-Unis. Enfin, c'était plutôt l'impréparation qui était soulignée.
Alors que la grande critique qui est formulée par Kim Jong-un à chaque fois qu'il s'agit de se moquer du président sud-coréen, c'est de dire qu'il est inféodé aux États-Unis, qu'il est le petit chien des États-Unis, etc. Sur cette vision de court terme, la marionnette des États-Unis, cette situation de cohabitation politique, Justine Guichard, est-ce qu'elle est courante en Corée du Sud, le fait que aujourd'hui le parti d'opposition, le Parti démocrate de centre gauche, soit majoritaire au Parlement et la majorité absolue?
Non, c'est une situation qui est rare, enfin, qui a existé par le passé, mais à très peu de reprises, et là qui a profondément dégénéré.
Oui, je suis vraiment désolée, la liaison n'est pas très bonne, alors j'ose pas vous poser de questions trop longues qui amènent des réponses trop longues, mais là ça a dégénéré, le président a posé son veto, il a été élu en 2022, à 25 propositions de loi, donc est-ce que ça a dégénéré ou la situation depuis le début était complètement bloquée depuis son élection en 2022, Justine Guichard?
Oui, la situation est bloquée depuis l'élection. Vous le disiez, 25 veto, c'est très supérieur au nombre de vétos, au nombre de fois où le veto a été utilisé sous la VIe République. Avant, il n'y a eu que 16 recours au veto, de 1988 à 2022. Là, 25 fois, de 2022 à 2024. Donc ça a été l'arme utilisée par le président dans sa confrontation avec le Parlement, jusqu'à ce qu'il passe à la loi martiale. Et l'arme utilisée par l'opposition a été celle des motions destitution. Puisque, comme je le disais, il n'y a pas eu qu'une motion de destitution contre Yoon Suk-yeol, mais il y a eu 4 motions de destitution en 2023. Et là, en 2024, on en est déjà à la 9e. Donc ça témoigne, à mon avis, d'une judiciarisation par le haut de la vie politique sud-coréenne.
Alors, vous disiez tout à l'heure que la vie politique sud-coréenne, la société sud-coréenne qui a vraiment construit cette démocratie sud-coréenne, entre guillemets, par le bas, c'est-à-dire que la démocratie sud-coréenne n'a pas été, contrairement au Japon, aussi imposée par une puissance extérieure, elle a été construite au fil des ans. Dites-moi si je me trompe d'ailleurs à ce sujet, Valérie, je les ose, mais en tout cas, on entend bien, vous le disiez tout à l'heure, il y a peu de soutien qui se manifeste auprès du président conservateur pour l'instant, dont on saura bientôt si la Cour suprême valide ou pas sa destitution, que ce ceux qui le soutiennent aujourd'hui près du palais présidentiel font des incantations, des prières. Enfin, il y a quelque chose de très manifestement des groupes plutôt d'extrême droite, très religieux, qui semblent le soutenir. Aujourd'hui, en revanche,
qui sont très minoritaires.
Et qui sont très minoritaires. Aujourd'hui, si le Parti démocrate, donc l'opposition, qui a la majorité à l'Assemblée nationale depuis les dernières élections législatives du mois d'avril, mais également depuis de précédentes élections, est-ce que pour autant on peut affirmer avec certitude qu'il y a un vote de conviction pour cette opposition plutôt qu'un vote par défaut ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mesurer ce que souhaite la société sud-coréenne ?
C'est une question difficile.
C'est toujours très difficile, ces questions trop larges.
C'est une question difficile. Ce que je trouve intéressant de souligner, c'est ce que, déjà, souligner ce que vient de dire Justine Guichard, c'est-à-dire que le clivage politique est quand même très important, là, aujourd'hui. On a une société clivée, mais qui rappelle des clivages internes aux sociétés que l'on rencontre dans d'autres sociétés, même occidentales, développées, démocratiques. Je pense à la France, je pense aux États-Unis, par exemple. Hein. Le premier. Et on constate aussi une évolution, à mon avis, des dynamiques traditionnelles de fonctionnement politique en Corée du Sud, par exemple. Je suis frappée du fait qu'on parle moins de régionalisme, alors que pendant la grande période de la démocratisation, enfin, des dictatures militaires, puis de la démocratisation, une des structures du fonctionnement de la vie politique en Corée du Sud, c'était l'opposition régionale entre les régions du sud-est et du sud-ouest, le sud-est étant majoritairement soutien du parti conservateur, et le sud-ouest majoritairement soutien des partis démocrates. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, c'est encore le cas, mais ça a tendance à s'atténuer. Alors je pense que c'est aussi le signe de mutations importantes politiques en Corée du Sud aujourd'hui.
Donc des mutations que vous observez avec beaucoup d'attention, on verra si cette crise prouve la solidité des institutions démocratiques avec ce Parlement qui est un véritable contre-pouvoir, ou au contraire si elle en révèle la fragilité. La chanteuse coréenne Rosée, sud-coréenne, pour terminer cette table ronde sur la crise politique en Corée du Sud. Merci beaucoup Valérie Jelezo, géographe et coréanologue, directrice d'études à l'EHESS. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Faire du terrain en Corée du Nord, écrire autrement les sciences sociales, paru aux éditions des ateliers. Je me suis trompée ?
Non, je voulais juste dire que c'était co-écrit avec Benjamin Joanneau, qui est un collègue anthropologue.
Et oui, et qu'on connaît bien à Culture Monde. Voilà. Pardon, vous avez bien fait de réagir et de l'ajouter. Justine Guichard, merci à vous, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité, politiste spécialiste de la Corée contemporaine. Merci d'avoir été avec nous, ainsi que vous, Marc Semo. La semaine prochaine, nous consacrerons 4 épisodes à la Syrie. Après la chute de Bachar al-Assad, demain, la Syrie. Alors, il n'y aura pas d'émission mardi pour cause de diffusion par France Culture de la messe de Noël orthodoxe. La série courra donc sur vendredi inclus. Dans un instant, les Midi de Culture.